Bonjour tout le monde. Bon mardi matin. J'espère que vous allez bien. Isabelle avec vous pour les deux prochaines heures. On aura de la belle visite tout à l'heure. La belle visite virtuelle. On va parler de partage. Ça va être une discussion inspirante avec Marc Hervieux, Martine Sinclair. Vous les avez peut-être vus d'ailleurs en direct de l'univers de Guy Jodoin en fin de semaine. C'est un super beau spectacle. Ils vont en donner un autre spectacle auquel d'ailleurs j'ai eu le plaisir de participer. On a tourné ça vendredi dernier. Vous allez pouvoir le voir vendredi sur Internet. Sur le web. On vous en parle, bien sûr, vers 11h30. On va vous tenir au courant également des restaurateurs là, qui vont aujourd'hui aller manifester à Montréal parce que ils en peuvent plus. La semaine dernière, vous l'avez entendu, plusieurs restaurateurs nous ont dit qu'ils étaient, en guillemets, vraiment mal pris. Je les cite, c'était carrément « on est dans la marde ». C'est exactement ça qu'ils nous ont dit textuellement. Vous permettrez l'expression, mais je pense qu'on comprend bien. Quand ils nous ont lancé ce cri du cœur la semaine dernière, on comprenait que l'aide du gouvernement québécois n'était pas suffisante. C'est un peu la question que je vais vous poser tout à l'heure, au moment donc où une quinzaine, une trentaine, on verra combien ils sont, vont continuer leur longue démarche auprès du gouvernement à Québec. Il y a une aide d'Ottawa, mais celle du gouvernement du Québec semble être assez difficile à avoir. Même si ce matin, le ministre de l'Économie a dit à mon collègue Paul Arcand, Pierre Fitzgibbon, là, en entrevue, qu'à son avis, ça fonctionnait puis que ça devait leur permettre de pouvoir voir venir les jours plus sombres, il en reste pas moins que c'est assez difficile pour les restaurateurs. Alors, on s'en parle à 11 heures. Mais d'abord, je voulais qu'on vienne sur un commentaire de mon invitée d'hier, la docteure Annie Janvier. Beaucoup parmi vous ont réagi à ses propos. Elle disait, entre autres, qu'on n'avait peut-être pas tiré toutes les leçons qu'on aurait dû tirer de la première vague. Là, on est en pleine deuxième vague. Et vous le voyez, hein, dans le Canada, c'est un peu ce qu'Ottawa nous disait hier, faites attention, Noël s'en vient, il ne faudrait pas partir en peur avec les parties, parce qu'on l'a vu, l'action de grâce qu'on a fêté à la mi-octobre, ben c'est ça l'augmentation des cas qu'on voit dans le Canada anglais, puis le fait qu'au Québec, ça ne baisse pas tant que ça, malgré le fait qu'on aimerait bien et qu'on fait tout ce qu'il faut pour. Donc, il y a véritablement des risques à mal gérer les secteurs, que ce soit l'école, le travail et les CHSLD. Et mon invitée d'hier, la docteure Annie Janvier, disait qu'en matière de CHSLD, on fait encore du, entre guillemets, charroyage. C'est-à-dire qu'il y a encore du transfert de ressources d'un CHSLD à l'autre CHSLD. Et ça, j'étais étonnée qu'elle nous dise ça, mais elle le maintenait, puis il faut la croire, je veux dire, elle a les deux mains dedans. J'étais étonnée. Pourquoi? Parce que ça fait déjà depuis le début de l'automne que le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous dit « ben ça n'a pas de bon sens de faire ça, on va envoyer un mémo pour que ça arrête ». Les syndicats, les CIUS, on les a encore appelés ce matin, tout le monde nous dit « non, ça se fait quasiment plus, ça serait bien étonnant ». Sauf que dans la vraie vie, moi je pense, vous êtes nombreux à me le dire, ça se fait encore. Peut-être pas de façon systématique, mais il y a encore trop d'endroits où on permet, où on demande à ce qu'il y ait un employé qui aille dans une ressource puis l'après-midi, le matin, puis l'après-midi qui est ailleurs, ou alors dans la semaine, une journée t'es là, le lendemain t'es ailleurs. C'est sûr que pour les employés à temps plein, d'après ce que je comprends, il y a un meilleur contrôle. Mais il y a tellement de monde qui travaille à temps partiel dans le réseau de la santé pour venir prêter main forte. Tous ces gens-là qui sont peut-être sur du 20 heures, 25 heures, 30 heures, ceux-là, j'ai l'impression que c'est eux là, qu'on a de la misère à contrôler bien comme il faut. Il y a la question des agences. Bref, tout ça, c'est un méchant problème parce que tant qu'on n'aura pas circonscrit et surtout interdit, empêché les transferts d'un CHSLD à un autre, comment voulez-vous qu'on contrôle vraiment les risques d'éclosion? J'ai besoin de vous ce matin. J'ai besoin de vous parce que on me dit pas peut-être pas la vraie affaire officiellement là, quand on veut avoir la vérité. C'est pas toujours facile, mais vous, vous avez peut-être la réponse à cette question. Est-ce que ça se fait encore? Et j'essaie de mesurer l'ampleur de ce problème. Ça doit être quand même important pour que le ministre de la Santé nous dise hier, là, on va créer un registre pour justement éviter qu'il y ait ce genre de transfert d'un endroit à un autre, une espèce de registre qui viendrait nous assurer là, que ça se fait presque plus, sauf dans des cas d'exception. C'est comme ça qu'on l'appelle, ça va être un registre d'exception qui va permettre de suivre en temps réel le déplacement du personnel dans tous les CHSLD au Québec. Parce qu'il dit sinon, Faire ça, là, transporter des travailleurs de la santé d'un bout à l'autre, ça a pas de bon sens, ce n'est plus acceptable. Nous allons en discuter avec le docteur David Lucier, qui est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour, docteur Lucier.
Bonjour, Mme Maréchal.
C'est une longue intro, là, mais je voulais vraiment expliquer à nos auditeurs à quel point c'était majeur, ce sujet-là de déplacement encore là, des travailleurs de la santé ou préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, vous, docteur Lucier?
Ben, premièrement, j'ai pas entendu votre entrevue avec Dr. Janvier hier, malheureusement, mais je sais pas d'où elle tient l'information, comme quoi ça se fait encore beaucoup, parce que moi, évidemment, c'est seulement du qu'en dira-t-on, là. J'ai pas de chiffres officiels. Le ministère les a peut-être. Mais selon moi, c'est vraiment exceptionnel parce que les gens seront vraiment sensibilisés au fait que c'est pas une bonne pratique. Donc, est-ce que, s'il y a encore du personnel d'agence? Oui, sûrement, parce que les milieux n'ont pas pu devenir autosuffisants en seulement quelques mois, là, surtout avec les maladies, les départs qu'il y a eu pendant l'été. Mais s'il y a des transferts d'un établissement à l'autre, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et je sais que nous, dans notre CIUS, où on a 17 CHSLD, il y a vraiment des règles très, très strictes. Si quelqu'un passe d'un milieu à un autre pour avoir des tests de dépistage, pour avoir ne pas travailler s'il y a des symptômes, ne pas travailler en attendant le résultat. Donc, c'est vraiment très, très strict s'il y a des transferts d'un endroit à l'autre. L'autre chose qu'il faut dire, c'est justement sur les tests de dépistage, c'est que dans les zones rouges, au moins, ce qui est la bonne partie du Québec maintenant, malheureusement, les employés, tous les travailleurs, pas seulement ceux qui travaillent au chevet, mais tous les travailleurs dans les CHSLD sont dépistés une fois par semaine. Donc, on passe un test à chaque semaine. Donc, s'il y a quelqu'un qui est asymptomatique parce qu'il l'a attrapé dans un autre milieu, parce qu'exceptionnellement, c'est quelqu'un qui fait du milieu, on va le trouver assez rapidement en le dépistant à chaque semaine.
Mais est-ce que c'est pas sur une base volontaire, justement, Dr. Lucier, ces tests-là?
Oui. Ce qu'on me dit, c'est qu'on peut pas les obliger, les rendre obligatoires, les tests, mais il y a beaucoup de campagnes d'incitation qui sont faites pour que les gens aillent se faire dépister.
Mm-hmm.
Sauf on voudrait que ce soit tout le monde. On voudrait que ce soit 100%. Ouais. Mais je pense pas que personne atteigne le 100%, malheureusement. Il faut y aller avec la responsabilisation des employés.
Ouais. Puis là, on voit que parfois, hein, le message de responsabilisation du monde, ça marche pas forcément tout le temps et partout. C'est pas compris de la même façon par tout le monde. Dans la plupart des endroits, vous dites tous les employés sont testés régulièrement, mais c'est sur une base volontaire. Vous pouvez pas attacher les gens puis leur mettre un coton-tige dans le nez, un écouvillon dans le nez. Il y en a qui, au bout d'un certain nombre de tests, peuvent dire aussi, bon, ben là, regarde, j'ai pas de symptômes, je vais faire d'autres choses. Là, ça prend quand même un certain temps. Il y a tout ça. Là. Le risque zéro n'existant pas, c'est clair que dans ce cas-ci, au bout d'un certain moment, probablement que là aussi, il y a une espèce de fatigue qui s'installe.
Bien, c'est certain que c'est pas quelque chose d'agréable. Puis les gens qui l'ont eu une fois par semaine depuis juin, ça fait une vingtaine ou de tests qu'ils ont à chaque semaine, c'est pas agréable. C'est aussi un moment qu'il faut prendre dans la journée pour aller passer le test. Donc, c'est certain que on s'en passerait des tests, mais j'espère que les gens qui travaillent en CHSLD ont un sens des responsabilités assez grand là, pour se faire tester. L'autre chose, la différence entre la première vague et maintenant, la différence la plus grande, en fait, c'est que l'équipement de protection nécessaire est disponible dans les CHSLD, ce qui n'était pas le cas à la première vague, au moins au début de la première vague. Donc, les CHSLD sont beaucoup mieux protégés maintenant qu'ils l'étaient en mars ou avril.
Oui. En même temps, je reviens au déplacement de personnel, puis je faisais appel à mes auditeurs pour nous aider à essayer de voir un peu qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Donc, j'en profite pour leur donner nos numéros de téléphone, nous tenir au courant de ce qu'ils voient, eux, de leur propre expérience terrain. Si vous travaillez dans un CHSLD, si vous avez un proche là, qui vous témoigne et que vous pouvez nous témoigner vous-même de ce qu'il s'y passe, si vous êtes un proche de quelqu'un qui est en résidence, un aîné, dites-moi si vous avez été témoin encore dernièrement de ces déplacements de personnel. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Je disais que Québec entame l'implantation d'un registre d'exception qui va permettre de suivre en temps réel le déplacement du personnel dans tous les CHSLD de la province, parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, puis j'en profite pour vous rappeler qu'il sera en conférence de presse diffusée sur nos ondes à 13h, le ministre de la Santé dit ça, là, le transfert, là, ça peut pas être un mode de gestion. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui. On sous-entend qu'on a compris quand même cette leçon de la première vague. Parmi toutes les leçons qu'on doit apprendre, hein, docteur Lucier, parce que là, l'autre proposition aussi, c'est peut-être de permettre aux aînés de sortir. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce qu'en même temps, on se dit, on a tellement d'empathie et de compassion pour toutes ces personnes qui étaient en CHSLD et qui sont prises là depuis presque 9 mois. En même temps, est-ce que c'est pas risqué que de dire éventuellement, bon ben d'accord, les aînés en CHSLD, vous pouvez aller dans les familles fêter Noël. Comment vous voyez ça, vous, docteur Lucie?
Ben c'est certain qu'il y a un risque. Moi, je crois que c'est un risque avec lequel il faut vivre, un risque qu'il faut contrôler parce que, comme vous le dites, ça n'a pas été facile du tout pour les gens qui résident en CHSLD ni leur famille parce que on se souvient que dans la première vague, les proches ne pouvaient pas visiter dans les CHSLD. Donc, ça a été les derniers 6 mois, là, les presque 10 maintenant, probablement, ont été très difficiles pour les gens qui résident en CHSLD, de leur permettre de sortir dans leur famille aux fêtes, comme c'est toujours le cas habituellement. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est raisonnable. Maintenant, il faut dire que, je n'ai pas de statistiques, là, mais c'est un très, 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 très petit nombre des gens qui vont sortir dans leur famille dans le temps des fêtes. C'est un très petit nombre.
Pourquoi? Parce que la plupart ne peuvent pas, ne sont pas en mesure de le faire. Je veux dire, en termes de déplacement, ce n'est pas possible pour elles?
C'est ça, effectivement. Il faut toujours se rappeler que quelqu'un qui réside en CHSLD, c'est parce que il a besoin de plus que 3 heures de soins par jour. Donc, c'est beaucoup de soins. Donc, la grande majorité peuvent pas se déplacer, peuvent pas marcher seuls. Certains ont besoin d'un levier pour sortir du lit. Donc, c'est très complexe pour emmener quelqu'un à la maison pour quelques heures ou pour un jour ou deux. Donc, c'est assez rare que les gens vont sortir dans leur famille. On peut avoir des visiteurs qui viennent les visiter, mais pour sortir dans les familles, c'est très rare. Maintenant, le ministère va envoyer des directives aux établissements, mais on peut penser que les gens qui vont sortir pour une journée ou quelques heures vont devoir être en isolement dans leur chambre pendant 14 jours, comme ça se fait maintenant.
Mais est-ce que c'est une bonne idée d'avoir soulevé cette éventualité de permission de sortie pour les fêtes, même si je comprends que, selon ce que vous nous dites, la majorité n'ont pas les moyens de se déplacer, d'aller rendre visite à leur famille, mais est-ce qu'il y a quand même encore de grosses éclosions, docteur Lucier? Est-ce qu'on réagit vraiment de la bonne façon? Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée que de soulever cette possibilité là, que des aînés en CHSLD aillent dans leur famille à Noël.
Bien, sûrement que si ça n'avait pas été soulevé par je crois que c'est la ministre Blais qui l'a soulevé, ça aurait été demandé par les résidents et leur famille aussi, ceux qui veulent sortir. Donc, je crois que c'est si on veut traiter les gens de façon humaine, on peut pas les empêcher de sortir non plus pendant les fêtes, mais toujours en prenant les mesures. Si on a quelqu'un, par exemple, qui est hospitalisé, qui va dans un hôpital, quand il revient au CHSLD, il va être en isolement dans sa chambre pendant 2 semaines. Donc,
pas drôle, ça.
Ben, c'est pour ça que les gens qui vont sortir vont devoir savoir qu'ils vont être en isolement après ça pendant 2 semaines. C'est sûr qu'ils sont... On va quand même donner les soins. Ils ont quand même tout ce dont ils ont besoin, mais ils ne peuvent pas sortir de la chambre. Tout le monde doit s'habiller avec toutes les mesures de protection pendant 2 semaines. Donc, quelqu'un qui va sortir va devoir être conscient de comment le retour va être après.
D'un point de vue général, est-ce que d'après vous, on agit assez? Est-ce qu'on en fait assez pour protéger les aînés en CHSLD?
Bien, ça va que si on regarde, moi je la regarde chaque jour, la liste des CHSLD et le nombre de personnes atteintes. Dans la très grande majorité des CHSLD, ça va très bien. Il y en a hier, il en restait 3 qui étaient en situation très critique, c'est-à-dire où il y avait un nombre très, très, très important de personnes atteintes, des éclosions très actives, mais il y en a de moins en moins. Et des endroits catastrophiques, comme on en a eu des dizaines au printemps seulement à Montréal, il y en a eu peut-être 3 ou 4 au Québec. Donc, ça a été très limité où il y a eu des gros problèmes d'éclosion dans les CHSLD. Maintenant, d'avoir un cas, deux cas, trois cas, c'est inévitable parce que les gens l'attrapent à l'hôpital. Après ça, ils s'en vont au CHSLD. Ils l'attrapent d'un visiteur. Mais ce qu'il faut, c'est de contenir les éclosions. Il y a eu des situations très problématiques. Il y en a encore qui sont problématiques. Ce qu'il faut faire, c'est agir très rapidement dans ces milieux-là pour contenir l'éclosion, pour qu'on passe pas de 5 à 25, 50 et avoir là beaucoup, beaucoup de décès. Je crois que c'est là le problème, c'est que peut-être qu'on n'intervient pas assez rapidement puis aussi agressivement dans les endroits où il y a un problème.
Oui, parce que c'est là, il suffit d'une personne en plus, après, qui donne des soins à cette personne-là contaminée, qui va ensuite aller dans d'autres endroits, qui va retourner dans sa famille. Je veux dire, beaucoup de gens m'écrivent, le problème, là, c'est pas les aînés, c'est les employés qui rentrent, qui sortent. La vie continue pour les travailleurs de la santé, qu'ils soient préposés aux bénéficiaires, qu'ils soient infirmiers, infirmières, médecins, quand ils se déplacent, puis on comprend qu'ils couchent pas là, ils sont pas, eux, complètement sur place 24 heures sur 24. Et ces allées et venues-là sont sans doute responsables de ces cas de contamination.
Oui, c'est multifactoriel, mais c'est un des cas. Puis ce qu'il va falloir faire attention au retour des fêtes, c'est que les employés qui ont vu des gens qui ont eu plus de contacts pendant les fêtes ne contaminent pas après leur milieu de travail en revenant.
Voilà. Merci beaucoup, Dr. David Lucier, gériatre, Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Nos lignes sont pleines. On va vous donner la parole tout de suite après ceci. Je vous demandais votre aide ce matin. On essaie de voir là, sur le terrain, c'est quoi la réalité? Parce que quand on essaie d'appeler vraiment les instances publiques, c'est pas toujours évident d'avoir l'heure juste. Si on les écoute, il y en a plus de problème. Or, hier, le ministre de la Santé a quand même jugé bon de dire on va créer un registre d'exception qui va permettre de suivre les déplacements en temps réel du personnel dans tous les CHSLD. Ça veut dire quand même qu'il reconnaît qu'il y a encore un petit problème. Moi, je veux le mesurer, là, l'ampleur encore du déplacement, du transfert. On sait que c'est vraiment une des sources, un des facteurs qui fait qu'il y a propagation du virus ici et là, même si c'est quand même rassurant d'entendre le docteur Lucie Gériade nous dire sincèrement, on peut plus parler d'une crise dans les CHSLD, ce qui, sincèrement, est très rassurant, je vous avoue. En même temps, faut toujours être aux aguets. Toujours être aux aguets. Faut pas relâcher. Ça peut revenir vite. On le voit, ce qui se passe dans le Canada anglais en ce moment. Il suffit d'une journée, là, un party, l'action de grâce, tout le monde a fêté, et boum, c'est parti en flèche à nouveau. On vous parle tout de suite après la pause. Pas si le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous écoute, mais il va être surpris d'entendre mes auditeurs. Pas mal plus de transferts de ressources qu'on pense et de charroyage, comme on le dit dans notre langage quotidien. Le déplacement de personnel semble être toujours un enjeu. Il y a Linda, qui m'écrit « Les infirmières aux soins à domicile, on se promène partout et il n'y a pas de dépistage. » Alors, en ce qui concerne les tests là, qui sont faits de façon régulière, il faut encore que tu veuilles le passer, puis il faut encore que ça soit accessible. On a Monique qui nous appelle. Bonjour, Monique.
Bonjour.
On vous écoute. Quelle est votre situation à vous? Êtes-vous obligé de vous déplacer d'un endroit à l'autre? Oui.
Oui, moi, ça fait 26 ans que je suis préposée aux bénéficiaires. Je n'ai jamais eu de temps plein, madame. Donc, travailler à 21 heures par semaine, je ne peux pas arriver.
Donc, vous n'avez pas le choix d'avoir deux jobs, là?
Deux emplois, oui.
Ouais. Donc, deux endroits.
Oui.
Et dans quel coin, ça, Monique?
Dans l'ouest de l'île.
Et vos employeurs respectifs, les deux, là, savent que,
ils
vous,
savent.
Les,
oui.
que vous passez
les deux le savent. Puis je passe des tests à toutes les semaines.
Puis d'après vous, est-ce que
ben
ça...
Ben moi, je sais que je suis sécuritaire parce que je m'habille, je mets des jaquettes, je fais très attention. Puis quand je finis de travailler, je m'en viens chez nous, je ne vois pas personne, je vais juste faire mes commissions, puis c'est tout.
Oui, c'est ça. Vous êtes...
Mais il faut être consciencieux aussi, là, à un moment donné. Tu sais, faire des parties, là, comme qu'ils font, là, c'est... On fait pas ça, nous autres, premièrement, on n'a pas le temps.
Oui, c'est sûr. Hein. C'est difficile, hein, de travailler fort mais, dans les CHSLD, j'imagine, Monique, là, en ce moment.
Oui, c'est ça, très fort. Puis en plus de ça, c'est que la première vague, là, on n'était pas équipés, là. Mm-hmm. On n'avait pas d'équipement, puis on était obligés de travailler comme on pouvait.
Est-ce que c'est mieux, ce bout-là? Le docteur Lucier disait tout à l'heure, au moins, nos aînés sont plus protégés parce qu'il y a de l'équipement de protection pour les travailleurs. Ça vous paraît bien. Bon.
Beaucoup plus. Puis nous autres, à toutes les semaines, on a une formation, comment se laver les mains, s'habiller, puis tout.
OK. Bon, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. La seule chose, ben, et puis on comprend, vous, ce que je disais un peu tout à l'heure, deux jobs à temps partiel, à un moment donné, t'as pas le choix d'être déplacé, sauf que je suis quand même étonnée que selon la directive du ministre de la Santé, ça doit plus se faire. Or, dans votre cas, les deux directions où vous travaillez de CHSLD sont au courant et tolèrent ça.
Oui, ceux qui travaillent pour le CLSC, là, comme la fille elle disait, là, ils viennent où ce que je vais à ma deuxième job, puis ils font plein de places.
Ils vont à d'autres endroits, c'est ça, ils font plusieurs domiciles.
Ouais. Puis les autres, en plus, sont même pas testés.
Donc, ça vous étonne pas qu'il y ait des éclosions?
Non. Si tout le monde ferait qu'est-ce qu'ils nous exigent, il y en aurait moins d'éclosions.
Merci, Monique. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Marc également, sur le terrain. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Merci de nous dire ce que vous avez pu remarquer. Vous, êtes-vous un travailleur de la santé?
Oui. Je suis un PAB qui a été formé cet été par... ce qu'on appelle les PAB Legault.
Oui, oui, les nouveaux préposés aux bénéficiaires.
Et
ça?
Voilà.
Ben oui. Est-ce que c'est vrai, et pendant que vous dites les PAB Legault, c'est vrai qu'on vous appelle comme ça dans les endroits où vous allez?
Oui, probablement. J'ai pas fait beaucoup d'endroits, là, mais oui, effectivement, entre nous, en tout cas, on s'appelle comme ça. Là.
Ah ouais, parce que je lisais ça cette semaine, comme quoi ça fait, c'est comme deux classes de préposés aux bénéficiaires. Il y en a comme, il y a la gang à Legault, comme on vous appelle, c'est ça?
Oui. Ben, effectivement, c'est que moi, comme PAB, je ne pourrais pas, par exemple, travailler dans un hôpital. Ouais. Je suis limité au CHSLD parce que la formation que j'ai reçue cet été ne s'appliquait que pour les CHSLD.
Et est-ce que vous faites un ou plusieurs CHSLD?
Je vais vous dire la chose suivante. Depuis le 4 novembre,
oui.
On m'a donné un poste qui est un poste équipe volante. Alors, il crée des postes où, comme PAB, tu es appelé, ou liste de rappel, si vous voulez, là, où tu es appelé à travailler à différents CHSLD.
Dans la même journée? Dans la même semaine?
Dans la même semaine.
C'est étonnant, ça, quand même.
Ça existe, mais il crée des postes.
Équipe volante.
Qui font que ça.
Et vous êtes combien de ceux que vous connaissez, là? Il y a vous, il y en a combien d'autres?
Écoutez, on était 400 finissants. Il y en a certains qui ont eu des postes parce qu'on nous avait promis un poste, si vous vous souvenez bien.
Oui, tout à fait.
La majorité, je vous dirais, ont eu des postes fixes à un CHSLD, mais il y en a un certain nombre, j'en ai aucune idée combien, qui sont sur la liste de rappel et donc font d'un CHSLD à l'autre.
Mm.
Ça, ce que je vous dis, c'est sous toute réserve, parce que depuis 2 mois maintenant, j'ai été délesté, c'est-à-dire que j'ai été prêté à un autre département et je ne travaille pas en tant que PAB. Mais la journée où je vais retourner, mon poste, c'est
l'équipe volante. Eh ben, merci beaucoup, Marc, pour ces précieuses informations. On va aller à la pause. On revient tout de suite après avec vos commentaires. 514-790-9850. De l'extérieur, partout au Québec, le 1-866-790-9850. Bon, déplacement de personnel. La permission de sortie aussi pour les fêtes, là, c'est quand même un point important. Si vous voulez en discuter, je vais vous écouter là-dessus. On se demande finalement si les aînés en CHSLD sont assez protégés contre la COVID. Ce qu'on retient toutefois, c'est qu'il y a plus d'équipements de protection, ce qui est une très bonne chose. Mais il y a encore visiblement des choses à améliorer. Avoir des équipes volantes de préposés aux bénéficiaires aujourd'hui, au moment où on se parle, je trouve que ça ne devrait pas. Là. Ça ne devrait pas. À tout de suite, tout le monde. On a Sylvie au bout du fil qui est infirmière auxiliaire. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour Isabelle.
On vous écoute sur le terrain, ça se passe comment pour vous?
Bon, moi je suis sur le terrain et ça fait 20 ans Vous imaginez, depuis 20 ans, je ne peux pas avoir un poste, même 4 quinzaines, dans le gouvernement. Ça fait que 3 ans, je l'ai, un poste équipe volante. Ça veut dire une semaine, tu es là, de chaque étage, on t'envoie de ça et là. Les 4 quinzaines dans le gouvernement, vous savez, on fait même pas un 700 $. Comment on peut arriver? Ça veut dire on doit aller de va-et-vient. Mais la précaution, on le prendra. Dans le privé, est plus facile de trouver un 7 quinzaines ou un 10 quinzaines que le public. Le public n'en donne pas du tout. C'est 4 quinzaines, même quelqu'un qui a 14 ans. Ma collègue a 14 ans, j'ai dit, t'as pas? Il dit, je suis l'équipe volante. L'équipe volante, 14 ans. Moi, je vous pensais, avec 2 ans d'expérience chez eux, je vais avoir un temps plein. Jamais le gouvernement donne pas un temps plein. Il donne que 4 quinzaines à chaque personne. On t'embauche vaguement 4 quinzaines. Tu cours de ça et là, à part que tu travailles toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, tu n'as pas de vie. On t'appelle le jour, le soir ou la nuit parce que la fin de semaine, tout le monde a besoin de sortir, d'aller danser. On nous appelle à ce moment-là pour boucher les trous. Mais avoir une journée, tu dis, c'est ma journée, je m'habille, je vais consécutivement. Ça n'existe pas.
Conditions de travail difficiles, oui. Sylvie. Et donc, vous faites combien d'endroits en ce moment?
2 endroits. J'ai 2 endroits, mais je n'ai pas le choix de m'arranger, je vais faire un peu ici, un peu là-bas, parce que là, notre projet, c'était toujours un privé. Et quand je vais là, je peux arriver facilement à faire 7 quinzaines, même 10. Mais dans le gouvernement, tu peux te fixer pour 4, parce que le gouvernement, son but, c'est de donner à tout le monde un petit peu. La part du gâteau, c'est 4. Et puis tout le monde travaille. Mais avec ces 4, tu n'arrives à rien.
Merci, Sylvie. Merci beaucoup de ce témoignage-là. Fait que vous voyez, une autre personne qui dit, mais moi, j'arrive pas juste avec une job. Fait que je suis obligée d'en avoir 2. Et ça, j'ai l'impression que ça fait partie du problème là, que le gouvernement et le ministre de la Santé n'arrivent pas à circonscrire, à régler, mais il va falloir s'y attaquer. Et t'as beau faire après le fameux registre d'exception. Pas sûr que ça soit l'exception. Regardez, là, juste nous, dans le cadre de notre émission là, ce matin, regardez le nombre de gens, puis je vous lis pas tous les courriels que je reçois, de gens qui me disent exactement la même chose. Jean-Claude me dit, c'est le blablabla des institutions. Sincèrement, mon voisin de palier reçoit l'aide de préposé du CLSC Mercier-Hochelaga à Anjou aux 2 jours. Et depuis mars 2020, tous les 2 jours, c'est des préposés différents, parfois même 6 préposés en 14 jours. Il dit sincèrement, pour moi, c'est une grosse hypocrisie du CIUS qui manque carrément au gouvernement en disant pas la bonne façon, là, en leur expliquant pas comment ils organisent les choses. Avec nous, Pierre Blain, il est président directeur général des usagers de la santé du Québec. Bonjour, Pierre.
Bonjour Isabelle.
Donc, encore ce matin, là, on se rend compte que entre ce qu'on dit officiellement puis la réalité terrain, c'est complètement 2 choses, Pierre.
Oui, absolument. Puis j'ai été très heureux d'entendre vos auditeurs, ceux qui parlaient, parce que c'est exactement ce que j'ai moi aussi comme information qui me vient du terrain. Moi, des familles m'appellent, ils me disent il y a un problème, il y a trop de personnel qui se déplace. Donc, encore une fois, on essaie de nous dorer la pilule, on essaie de nous faire dire que tout va bien, alors que c'est pas tout à fait exact.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le registre d'exception, on voit qu'il y a quand même une certaine bonne volonté de la part du ministre de la Santé, Christian Dubé, là, ça fait, à sa décharge, ça fait quand même plusieurs fois qu'il dit qu'il faut que ça arrête. Fait que visiblement, il y a quelqu'un qui l'écoute pas, le pauvre ministre de la Santé. Là, il dit, on va implanter un registre. Comme ça, on va être capable de suivre en temps réel. Je sais pas si c'est une idée de fonctionnaire qui peut marcher. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose? Un registre dans lequel on écrirait les noms. Quand même, t'écris les noms, ça empêchera pas les déplacements.
Absolument. Moi, je ne crois pas plus que ça. Ben, oubliez bien
sûr... Une autre
sûr,
bébelle administrative, là, j'ai l'impression.
Oui, parce que moi, pendant ce temps-là, je vois des communications qui nous viennent de certains CIUS qui trouvent plus important de changer leur site Internet que de mettre des ressources pour faire du travail auprès des personnes aînées. Ouais. Pouvez-vous imaginer ça? On se vante de mettre à jour notre site Internet. Voyons donc pour qu'il soit plus beau pour le monde. Donc, plutôt, mettons donc des ressources pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de déplacer le personnel. Le problème du personnel déplacé, c'est un problème qui existe depuis toujours dans le réseau. Moi, j'étais sur un conseil d'administration déjà dans les années 90 et c'était déjà le problème que nous voyions à ce moment-là et qui était récurrent. Donc, ça fait 30 ans que ça existe. Les institutions anglophones avaient déjà, elles, commencé à régler le problème en donnant plus de temps plein, autant à leurs infirmières qu'à leurs préposés ordinaires. mais c'est ça qui va être la vraie solution. Et on vient de se rendre compte, là, parce qu'il y avait supposément une entente de principe avec la FIC hier, qui a été rejetée parce qu'on trouve que les conditions qu'on essaye de nous, qu'on essaye d'imposer aux infirmières et à certains autres travailleurs de la santé ne sont pas suffisantes et le gouvernement n'offre pas suffisamment de garanties. C'est là qui va être le nerf de la guerre. Le ministre Dubé a dit, c'est une vraie, on ne devrait pas gérer comme ça, mais je lui souhaite bonne chance. Je ne vois pas comment il va pouvoir la solutionner, sinon avec des milliards de dollars.
Est-ce qu'il y a un problème avec les hauts fonctionnaires, vous pensez, de la santé, là, qui mettent des bâtons dans les roues, hein, Christian Dubé, Pierre Blain?
C'est pas tant qu'ils veulent mettre des bâtons dans les roues, mais je pense que la situation, on ne leur donne pas les vrais outils. Regardez votre préposé aux bénéficiaires Legault qui vous a parlé tantôt.
Mm-hmm.
On est en train de, on est en train de faire des équipes volantes. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas d'autres solutions. J'ai été aussi dans ma vie dans les ressources humaines. Quand on a eu les premiers préposés qui ont commencé leur formation et qu'ils se sont butés à la triste réalité des ressources humaines dans un CIUS, de dire, ben nous autres, on ne peut pas vous en donner des temps à temps plein parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire.
Ouais.
Donc, c'est ça qui est le vrai problème. Donc, je ne pense pas qu'ils ont de mauvaises intentions, sauf qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir le faire.
Mais après, il y a comme... Après, j'ai l'impression que c'est parce qu'on ne comprend pas tout à fait les enjeux. Moi, j'espère que cet après-midi, là, il y a des journalistes qui vont poser des questions là-dessus à Christian Dubé. Comment ça se fait qu'on tolère encore des listes d'équipes volantes dans les CHSLD? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de temps plein qui est donné en ces temps de pandémie? Et je dis en ces temps de pandémie parce qu'on sait historiquement que le gouvernement, on sait pourquoi ils ont de la misère à donner du temps plein. C'est qu'il y a des avantages sociaux avec ça. Il y a les conventions collectives sont quand même là aussi pour les faire respecter. Puis donc, ça coûte plus cher à l'État d'avoir une personne à temps plein que deux personnes à temps partiel. N'est-ce pas, Pierre?
Exactement.
Alors, mais là, en temps de pandémie, on peut-tu admettre qu'on ne peut plus fonctionner comme d'habitude? Tout le monde est obligé de s'adapter. Fait que là aussi, il faut s'adapter.
Isabelle, on s'en va malheureusement dans une période où on va arriver à nouveau dans des coupures, dans de l'austérité. Alors moi, j'ai l'impression qu'on essaie présentement de ménager le plus possible pour avoir le plus d'argent possible pour plus tard quand on va être obligé d'arriver là. Le nerf de la guerre est là, c'est des postes à temps plein, mais ça coûte très cher et présentement, je suis pas certain qu'on va vouloir donner autant d'argent. On a annoncé 100 millions pour les soins à domicile, mais c'est pas 100 millions que ça prend, ça en prend beaucoup plus. Donc, encore une fois, on va être confronté à un problème de budget. Et c'est ça qu'il faut qu'on règle. Et on devrait nous donner la vraie heure juste. On devrait nous dire on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas l'argent. Mais là, à partir de ce moment-là, ben là, on pourrait comprendre exactement, plutôt que de penser que c'est toujours la faute des autres.
Pierre Blain, vous restez avec nous. On va à la pause. On revient. Nos lignes sont toujours pleines. On va essayer de faire parler quelques autres personnes d'ici là. Là-dessus, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose de vraiment important ce matin. Et puis c'est toute la question de la sécurité sanitaire de nos aînés dans les CHSLD, entre autres. Et je sais que ça intéresse tous nos auditeurs parce qu'on a tous, de près ou de loin, un proche là, qui est en CHSLD. Puis on a tous la crainte un jour de s'y retrouver nous-mêmes. Fait qu'on a intérêt à gérer le dossier en prévision de ce qui nous attend. À tout de suite, tout le monde. Il y a Eric qui m'écrit, le problème, c'est qu'on peut déplacer les ressources 24 heures après avoir été dans une zone. Par exemple, il dit, moi, je travaille dans une zone rouge aujourd'hui. Ben demain, on peut peut-être m'envoyer travailler en zone verte ou jaune. Imaginez, parce qu'on va considérer que je suis allée prendre ma douche, j'ai changé de vêtements. On a beau dire à nos gestionnaires, ben il y a peut-être un risque de contamination, puis je le sais pas pour l'instant. Ils s'en foutent. Ça a l'air que les gestionnaires s'en foutent. Il dit, Eric, nous sommes carrément interchangeables. On a Sophie avec nous. Bonjour, Sophie.
Oui. Bonjour.
On vous écoute.
Ben bonjour. Oui, ben écoutez, moi, je fais partie des nouveaux préposés de M. Legault. Puis oui, effectivement, on se fait bouger. Moi, personnellement, je suis restée au centre où je suis, mais ils nous ont toutes dépouillés de tous nos nouveaux des nouveaux préposés pour les envoyer en zone COVID parce qu'il y avait trop de préposés qui étaient malades.
Mm-hmm.
Puis présentement, les anciens employés ils reviennent à leur poste. Fait que ces employés-là, ils acheminent ailleurs. Ailleurs, même dans des centres privés. Fait qu'ils partent d'une zone jaune ou rouge, puis ils sont carrément envoyés dans une autre zone, par exemple, qui est jaune ou rouge. Ils n'ont pas été envoyés en zone verte, là, où il n'y a absolument rien.
Et donc, vous, là, ce que vous envoyez, ce que vous dites, mon Dieu, ça aide pas le risque de contamination, on le maîtrise pas, donc...
Non, pas du tout, parce que du début, là, ce qu'il nous disait, c'est qu'il fallait que quand tu allais travailler dans une zone rouge ou jaune, il fallait plus qu'il y ait de cas pendant 20 jours. Après ça, tu pouvais quitter le centre. Ensuite de ça, ça l'a tombé. Vous avez entendu le 24 heures.
Ouais.
Puis on a entendu aussi un 2 semaines. On appelle toute la même liste de rappels. On fait toute partie du même CIUS, là. La liste de rappels, il n'y a pas 56 noms, il n'y a pas 56 numéros. Là, c'est tout le même numéro, puis ils ont toute une version différente à nous dire. Oui, je pense que c'est ça peut effectivement se propager. Puis les centres privés, même j'ai une amie qui est partie en centre privé, puis elle dit c'est déplorable. Là. Les gens sont pas lavés, c'est épouvantable. Elle a commencé hier, puis elle trouve ça épouvantable.
C'est incroyable. Merci Sophie. En même temps, c'est fou, là. Puis Sophie a raison de parler des centres privés. Puis on me dit les agences aussi, c'est un enjeu. Il y a vraiment, là, le ministre, il faudrait qu'il écoute notre émission puis qu'il vous écoute nous raconter ça. François, bonjour, François.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'ai deux amis qui sont dans le réseau, une à l'hôpital puis l'autre dans des centres de personnes âgées.
Ouais.
Puis, les problèmes de gestion, c'est effrayant. Ils se font, comme je disais tantôt, là, c'est les gestionnaires. Ça, c'est une grosse partie du problème. Ils se font changer de département quand que les heures, ils ont tant d'heures à faire par semaine. Je pense que c'est 31 heures ou 33 heures. Puis après ça, ils ont un boni. Ben, pour la gestion, ils se font switcher de département pour pas atteindre les heures, pas avoir le boni. Puis après ça, ben, OK, toi, tu t'en vas travailler dans la zone rouge. Ben non, je suis dans la zone verte. Ben non, faut t'y aller. Fait que là, il vient de se faire couper ses heures, il n'aura pas son boni. Ça, si on parle des temps pleins, là. Puis l'autre qui est dans la zone rouge, elle aussi, elle va avoir son boni. Non, toi, tu t'en vas travailler en zone verte. Parce qu'ils ont vu qu'elle était sur le bord d'arriver, d'avoir ses heures complétées, pour pas qu'elle ait son boni. Il est switch de zone pour pas avoir à payer les bonis, comprends-tu? Fait que ça n'a pas de sens, leurs affaires, là. Puis c'est le même toujours, puis ils n'ont pas le droit de refuser. Ils sont pratiquement plus protégés. Le syndicat, moi, les derniers échos que j'ai eus, là, le syndicat, il dit non, je m'en mêle pas, j'arrange pas avec tes troubles. Tu sais, là, ils sont pas protégés, ils se font barouetter de bon pilote, ils veulent pas en avoir des temps pleins. Les gestionnaires veulent pas en avoir parce qu'ils veulent pas payer le maximum d'heures pour pas être obligé de payer le bonus.
Oui, exactement. Il y a les bonis, puis il y a tout le reste aussi, là, tous les autres avantages sociaux, puis une personne à temps plein après. Pour la sortie, une personne à temps partiel, c'est plus facile d'éventuellement dire merci beaucoup, on n'a plus besoin de vous, on va prendre quelqu'un d'autre, alors qu'une personne à temps plein, syndicalement parlant, c'est plus difficile à décoller. Il faut que tu vives avec longtemps, t'es mieux de monter un dossier. Mais c'est un vrai problème.
Oui, puis le gestionnaire, lui, il a son bonus de rendement. Ouais. Le chef de département, il a son bonus de rendement. Puis ça, c'est une grosse partie de l'argent qui disparaît dans le système, ça. Ouais. Hey, les autres, ça rentre pour avoir des gros bonus de rendement, mais ceux qui travaillent comme des acharnés en bas, là,
sur la première ligne,
ils n'ont pas droit de l'atteindre.
Merci, François. Merci beaucoup. Merci bien. Chantal me dit, les agences en santé se graissent la patte. Ça coûte plus cher que le temps partiel ou l'employé occasionnel qui reçoivent tous les deux des avantages sociaux. 11 % additionnel à la paye ou encore on leur offre aussi les avantages sociaux. Elle m'écrit un long mot, là, mais bref, en gros, c'est les agences aussi qui sont un enjeu. Pierre Blain est toujours avec nous. Pierre, ça fait longtemps que vous êtes dans le réseau de la santé,
oui.
Toujours à la défense des usagers. Hein.
Oui.
Il y a la question, on ne peut parler, on aura sans doute l'occasion de revenir là-dessus, parce que de toute façon, ça a été une proposition, ça a été un commentaire émis par Marguerite Blais, mais la question là, de permettre peut-être des visites de certaines personnes en CHSLD dans leur famille. Docteur Lucier disait, ouais, mais ça sera pas la majorité. La majorité pourront pas se déplacer. Vous, en gros, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre?
Ben moi, je pense qu'on devrait donner plutôt des permissions d'entrée que des permissions de sortie. Alors, pour que la famille puisse y aller, on devrait pouvoir élargir ça. Je prends l'exemple de ma sœur qui venait, effectivement, mais quand ma sœur venait, c'était dans un restaurant. Elle n'allait pas dans la famille.
Moi, je pense que c'est très dangereux et je pense qu'à ce moment-là, on devrait assurer une présence plus grande des familles pendant le temps des fêtes. On serait capable de mieux contrôler ça. Les aînés verraient leur famille et à ce moment-là, ça serait plus sécuritaire. D'ailleurs, Santé Canada ne recommande pas actuellement des rassemblements de plusieurs familles. Donc, ce serait un risque pour les aînés, mais il ne faut pas les priver de leur famille, mais donnons plutôt une permission d'entrée.
Oui, ça c'est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Merci beaucoup Pierre Blain, président-directeur général des usagers de la santé du Québec. Nous, on s'arrête ici, il va y avoir les nouvelles. Tout de suite après, on va aller rejoindre les restaurateurs directement dans la rue où ils sont en train de manifester. C'est à 11h que ça commence. Et je vais vous poser la question parce qu'ils veulent ouvrir entre le 24 et le 27, les restaurants. Seriez-vous d'accord avec ça? On en jase ensemble tout de suite après.